Donc, eh bien, bienvenue au bar de Madame Spock pour une rencontre avec Alain Musset. Alors, je vais lire la description que j'ai d'Alain Musset. C'est un humain, mais je vais quand même passer par un texte. Donc, presque humain. Directeur d'études à l'EHESS, où il dirige donc le Master Études Comparatives du Développement et la formation doctorale Territoire, Société, Développement, Géographie. Spécialiste de l'Amérique latine et des études urbaines, il a travaillé sur les relations ville-environnement dans une perspective historique. Ses champs de recherche actuels portent sur l'expression, la représentation et la perception des inégalités territoriales en milieu urbain, avec comme terrain d'étude le Mexique et le Nicaragua. Et dans le domaine des représentations, il s'intéresse aux villes imaginaires et de science-fiction, en particulier Coruscant, capitale de la galaxie Star Wars, donc comme dans De New York à Coruscant et Cette géofiction en 2005. Et il a poursuivi ses recherches sur la science-fiction et les sociétés urbaines dans Le syndrome de Babylone, géofiction de l'apocalypse, que j'ai ici. Ça, c'est le mien. Je l'ai trouvé à la librairie au rez-de-chaussée. Je l'ai acheté hier pour moi. Je suis à la meilleure position pour me le faire dédicacer, j'en suis ravi. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, si je suis ravi d'avoir ce livre, c'est pas pour faire mon malin et vous montrer la couverture, c'est parce que... qui est très belle. C'est parce que le point de vue est extrêmement intéressant. Donc, Alain Musset, pour éviter, est un géographe. Et comme je l'évoquais à l'instant, la géographie, pour la plupart d'entre nous, l'image qu'on a de la géographie s'arrête souvent dans le secondaire. On a l'impression que ce sont des gens qui font des cartes. Et il suffit de regarder, en fait, la bibliographie d'Alain Musset pour bien se rendre compte que la géographie va bien au-delà de ça. Il a comme spécialité diverse, il faut m'arrêter si je me trompe. Ça va de l'urbanisme, de la manière dont notre organisation de l'espace va être en lien avec une histoire politique, avec des fonctionnements sociaux de manière dynamique, ça envoie produit et moteur de ces différents fonctionnements, et à l'échelle supérieure sur une géopolitique des États et des continents, de manière générale. Et il développe depuis un moment ce concept de géofiction. Pour tout vous dire, moi qui suis littéraire, ça m'a fait penser à ce qu'on appelle en littéraire des loci, un locus des loci, c'est-à-dire un motif, je vais aller encore plus loin, ce qu'on appelle un stéréotype ou un cliché, c'est une manière péjorative de parler d'un élément récurrent dans un type de récit. Comme on peut avoir des éléments récurrents qui sont définitoires de genre dans les types de récits, on a défini d'autres termes comme le motif qui permet de parler de cliché sans être péjoratif ou de stéréotype. Et parfois ces motifs sont des lieux et c'est à ce moment-là qu'en tant que littéraire j'appelle ça un loci. Et il me semble que quand je lis dans les géofictions, il s'agit de ce que moi en tant que littéraire j'appelle un loci, mais compris depuis un champ disciplinaire de géographe, avec tout l'éventail que je viens de dire. Et donc ma première question qui est évidente, et à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est « Mais qu'est-ce donc une géofiction ?»
On commence difficilement. Oui, donc qu'est-ce qu'une géofiction ? C'est un terme, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais enfin je l'ai repris. C'est l'idée de travailler comme un véritable géographe sur des villes qui n'existent pas, puisque j'ai fait de la géographie urbaine, je travaille sur des villes qui existent, enfin on pourra y revenir d'ailleurs, notamment sur Mexico, sur des villes latino-américaines, mais on peut appliquer exactement les mêmes méthodes de la géographie à des villes qui n'existent pas. Et là ça devient intéressant parce que ces villes qui n'existent pas nous en apprennent beaucoup sur nos villes à nous et sur nos sociétés. Parce que dans la science-fiction, ce qui est intéressant, plus particulièrement dans la science-fiction, c'est qu'on ne peut pas pousser au bout tous les problèmes actuels de nos sociétés contemporaines. On parle tout le temps de la fin du lien entre la ville et la nature. Eh bien, les auteurs de science-fiction s'engouffrent là-dedans et disent « Bon, allons plus loin et allons voir si toute la planète va être complètement urbanisée. » C'est le cas de Trantor chez Asimov. C'est Coruscant.
Coruscant, je dis Coruscant parce que l'adjectif Coruscant, qui veut dire brillant, existe aussi en français. Donc je me permets de l'utiliser en français. C'est plus utilisé, hein, mais ça existe. Donc on va jusqu'au bout. Ou alors ceux qui ont lu tout le cycle d'Endymion, c'est Tau Ceti Central. Tau Ceti Central, c'est une planète qui est complètement envahie par les constructions. Et alors là, évidemment, on se dit, où on va? Les Américains ont parlé de l'urban sprawl, c'est-à-dire l'étalement urbain. Poussons l'étalement urbain jusqu'au bout et faisons en sorte que toute la planète soit complètement urbanisée. C'est un des exemples de l'intérêt de la science-fiction pour travailler sur nos problèmes contemporains.
Alors du coup, comme moi là, pareil, en tant que littéraire, à chaque fois qu'on va avoir une expérience de pensée, un travail de littéraire, c'est d'expliquer l'écart en part artistique, mais aussi les liens réels, disciplinaires et scientifiques qu'il peut y avoir entre un texte, une description du réel et la réalité telle que comprise par le scientifique. Ça va être un peu de notre travail.
Oui.
Du coup, j'ai envie de demander une application. Est-ce qu'on peut par exemple avoir un exemple de la manière dont un travail sur Mexico, réel et ses conclusions et avoir derrière son application pour Coruscant. Alors, je vais me forcer, en tant qu'angliciste, je dis Coruscant.
mais je comprends, puisque c'est... Non, alors, d'abord, il y a un point qui me paraît essentiel, c'est que, qu'est-ce qu'une ville réelle ? Déjà, posons-nous la question de qu'est-ce qu'une ville réelle ? Donc, moi, j'ai publié sur Mexico, j'ai fait des bouquins sur Mexico. Je voudrais savoir, parmi vous, il y en a combien qui sont allés à Mexico ? Voilà. Donc, combien ? Il y en a un ? Oui ? On y reviendra. Claudine, elle y était avec moi, c'est pas pareil. Je dis ça pourquoi ? Parce que les images, les idées que vous avez de Mexico, de toute façon, c'est d'une ville qui n'existe pas. Vous y êtes jamais allé. Hein ? Et Jean-Jacques Rousseau disait dans L'Émile ou l'éducation qu'il fallait toujours éduquer les enfants en leur montrant la réalité. Et il disait, et c'est pour quelqu'un qui était un piscopi, je trouve que c'est assez extraordinaire, il disait, je hais les livres, ils n'apprennent à parler que de ce qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent aujourd'hui parler de Mexico, parce qu'ils ont vu des films, ils ont vu des documentaires, ils ont lu des livres, ils ont peut-être lu mes livres, mais il n'empêche que ça reste une ville complètement virtuelle. Ça reste virtuel. Donc, en quoi est-ce que c'est réel ? Et l'intérêt de travailler sur des villes imaginaires, c'est pas... qu'elle soit imaginaire ou qu'elle soit réelle, peu importe, c'est la question qu'on va poser. C'est la question qui compte. Parce que c'est la question qui va créer de la dynamique. Revenons à Mexico. Imaginons que je vous ai menti. Que ce que je dise dans mes bouquins soit complètement faux. Ben, vous allez répéter ce que je dis parce que vous me faites confiance. Enfin, j'espère. Il y en a qui peuvent... Moi, je ne fais jamais confiance. Mais c'est normal, c'est mon boulot de scientifique. Mais je répète des choses, je dis des choses, c'est peut-être aussi faux ou aussi vrai que ce qu'on peut dire sur Coruscant. Et allons encore plus loin. Imaginons une chose. Mexico, en fait, n'existe pas. Mexico, c'est un piège. Mexico, c'est une invention. Et je veux même dire... Quand Mexico a été inventé ? Mexico a été inventé en 1519 par Hernán Cortés pour faire croire à Charles Quint qu'il avait découvert un territoire magnifique plein d'or et d'argent. Et ce qui est absolument extraordinaire avec cet attrape-couillon de Mexico, c'est que ça a marché. Après, il y a des gens qui ont continué et ça fait des siècles qu'on vous raconte des trucs sur Mexico alors que Mexico n'existe pas. Et moi, je fais partie du complot, j'écris aussi sur Mexico, alors que Mexico n'existe pas plus que Coruscant. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'y suis allé. Eh bien, vous vous êtes fait avoir aussi. Vous êtes fait avoir. Mexico, c'est un décor. C'est un jeu de rôle. On a organisé tout ça parce que les gens, à force de lire Hernán Cortés, à force de lire des romans qui portent sur Mexico, on a créé un décor. Et les gens viennent à Mexico pour visiter un décor. Et puis comme ça a eu beaucoup de succès, finalement maintenant on a un immense décor, parce que ceux qui ont cru aller à Mexico ont pu voir que le décor était gigantesque, et c'est un décor avec 20 millions de figurants. Ça, c'est du jeu de rôle. Et ça, effectivement, c'est assez extraordinaire. Et vous allez me dire, mais alors, finalement, ça existe ou pas, Mexico ? Je dis, ben, ça existe dans vos imaginaires, parce que vous partagez des imaginaires, tout comme Coruscant existe, parce que c'est un imaginaire qui est partagé. Mais honnêtement, au fin fond du monde, Coruscant a autant de réalité que Mexico, parce que tout simplement, ce sont des représentations. Et toute ville est en soi une représentation. Je suis désolé de vous casser la baraque si vous vouliez passer vos vacances à Mexico, mais c'est ça. Voilà. C'est faux. C'est un grand plateau avec 20 millions de figurants.
D'après ce que j'ai lu, c'était pas le meilleur endroit pour passer mes vacances, mais j'ai dû dire des choses assez noires.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent dire du mal de Mexico parce que ça a du succès, et donc on veut effectivement essayer de faire en sorte que les gens n'y aillent pas. Et puis c'est vrai, les capacités d'accueil du plateau de jeu de rôle de Mexico sont réduites, donc il vaut mieux pas trop s'y bousculer. Alors, à part ça, pour revenir à ce que vous disiez, pour savoir si on peut faire un lien entre une ville réelle et une ville imaginaire. On va dire que Mexico existe réellement. On est dans la fiction. Oui, ça sert. Ça sert pourquoi ? Parce que des écrivains mexicains, entre autres, utilise Mexico pour parler du futur. Et encore une fois, en disant quels sont les problèmes de Mexico, qu'est-ce que ça va donner dans quelques dizaines d'années. Et notamment, il y a un écrivain mexicain qui s'appelle Guillermo Sheridan. Il y a, la science-fiction mexicaine n'est pas très très développée. C'est, on n'est pas comme aux États-Unis, bien évidemment, mais il y a une vraie science-fiction mexicaine. Et lui, il invente dans un roman qui n'a pas été traduit en français, qui s'intitule El Dedo de Oro, le doigt d'or. Il imagine Mexico dans une trentaine d'années. Hein. D'ailleurs, et c'est là, c'est, quand vous parliez de géopolitique, c'est aussi un bouquin de géopolitique, puisque les États-Unis ont envahi toute la moitié nord du Mexique, et ils ont fait un nouveau mur pour séparer les États-Unis du Mexique, pour se protéger. Et tout le monde est très très content. D'abord, les Mexicains qui ont été envahis, maintenant ils sont aux États-Unis, c'était leur rêve, donc ça y est, ils y sont. Et ceux qui sont toujours au sud ont moins de kilomètres à faire pour franchir la frontière. Donc ils sont tous très très contents. Et la ville de Mexico, quel est son problème dans l'avenir? Ben, c'est son problème actuel. C'est la violence, parce que c'est vrai, c'est une ville qui est quand même violente, et c'est la pollution. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le discours, il y a une véritable histoire, il y a une enquête policière, etc., mais ça se passe dans cet avenir qui est très très sombre, où il y a une très forte division socio-spatiale entre les habitants de Mexico. Il y a ceux qui vivent au-dessus et ceux qui vivent en dessous. Cette vieille division, hein, je dirais, qui est une métaphore de la société entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Mais là, c'est lié à la pollution parce que toute la ville s'est verticalisée. Les gens qui habitent dans les étages supérieurs vivent au-dessus de la couche de pollution. Et ceux qui vivent en dessous, eh ben, ils étouffent et ils n'arrivent pas à vivre très très vieux parce que la pollution est un facteur aggravant des conditions urbaines. Donc, il prend la réalité, et c'est vrai, j'ai vécu plusieurs années à Mexico, je peux vous dire en fait, Mexico existe. Hein, mais la pollution à Mexico, pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est vrai que c'est un phénomène qui est grave. La science-fiction le prend et dit « allons jusqu'au bout et voyons voir si justement ces problèmes actuels ne vont pas servir aussi à accroître les divisions sociales et spatiales entre les habitants ». Donc là, on a cet effet, cette relation. Et je terminerai encore une fois, puisque vous me tendez la perche sur Mexico, Mexico est une ville de science-fiction. Vous avez peut-être vu « Total Recall ». Hein, le premier, hein, le deuxième, c'est nul. Non,
le seul.
Voilà, l'autre, non. Surtout,
l'autre, c'est eu un ersatz.
Oui, non, mais c'est même pas la peine d'en parler. Mais dans le premier, à un moment, vous voyez, c'est tout au début, avant qu'ils partent sur Mars. Hein, on est dans des galeries souterraines, il y a des transports publics, etc. C'est le métro de Mexico. En fait, ça a été tourné dans le métro de Mexico et certaines scènes dans le studio Churubusco. Quand je dis que Mexico est un plateau, c'est aussi un plateau parce qu'il y a des studios de cinéma. Et à un moment, il y a Schwarzenegger qui sort, hein, et qui se retrouve sur une place avec un grand édifice rond au milieu. Eh bien, ce n'est pas de décor, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la station de métro Insurgentes, pour ceux qui connaissent, et c'est donc une réalité. C'est-à-dire que Mexico est devenu aussi un locus de la science-fiction.
Et moi, je me pose en fait une question, c'est par rapport à quel va être l'apport de la fiction ou du récit situé dans une ville par rapport, et je parle vraiment en termes d'études géographiques de cette ville-là, quel va être l'apport par rapport à une étude simple? Parce que, à la limite, en tant qu'enseignant, l'intérêt pédagogique, hein, de transformer une connaissance assez théorique et de la rendre accessible et attractive en tant qu'histoire, ça, j'y suis tout à fait sensible. Mais j'ai l'impression que la conception va plus loin et que la projection fait partie réellement de l'outil méthodologique dans ce cas. Même avoir des précisions sur la manière dont l'apport spécifique en tant qu'outil méthodologique d'une prospective quasi narrative.
Alors, on est effectivement dans la prospective. Alors, ça qui pose encore une fois le problème aussi de la définition des mots. Science-fiction ou anticipation. On est là aussi dans des rivages qui sont fluctuants. On a des récits qui sont des récits d'anticipation où on dit, ben voilà, dans 10 ans, voilà ce qui risque de se passer. Et on est dans la prospective. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les auteurs de science-fiction, qui sont loin d'être des imbéciles, ont lu, hein, et ils ont lu des auteurs, notamment plutôt en sociologie qu'en géographie, parce que ce que nous, en France, on entend par géographie sociale, c'est C'est un petit peu une spécificité, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire voir l'expression territoriale des processus sociaux, je dirais, comme le feraient des sociologues, mais en territorialisant, c'est une particularité un petit peu française. Hein, donc ça, il faut le dire. Hein. Mais les écrivains de science-fiction ont lu, et notamment les sociologues. Et notamment, je ne veux pas faire un cours de sociologie, mais vous avez peut-être entendu parler de l'école de sociologie de Chicago. Hein, dans les années 20 et 30, c'est une grande école qui a travaillé, par exemple, sur les divisions socio-spatiales dans la ville, sur l'opposition centre-périphérie, sur ce qu'ils appellent en anglais la racial succession, la succession raciale, c'est-à-dire comment les classes, les catégories de population noire remplacent des catégories de population blanche dans les quartiers. C'est quelque chose qui a marqué la science-fiction. Et de nombreux récits de science-fiction s'inspirent de la sociologie et utilisent réellement les méthodes, les outils et les notions de la sociologie pour parler des villes qui seront des villes du futur. Philippe K. Dick, par exemple, je ne présente pas Philippe K. Dick, dans une de ses nouvelles qui s'appelle James P. Crow, parle du futur quand il y a la Terre est peuplée, alors là, d'une race supérieure. Ce sont les robots. Hein. Et puis, il y a une race inférieure, ce sont les êtres humains. Les êtres humains sont sympathiques, mais ils n'ont pas l'intelligence des robots, bien évidemment. Et puis, ils sont plus folkloriques. Hein. En gros, on leur donne les petits boulots, mais on leur donne l'autorisation aussi de faire de l'art, de la musique, etc., parce qu'ils sont plus doués que les robots pour ça. Un petit peu comme dans les années 20-30, les Noirs d'Amérique, bien évidemment, c'était des inférieurs. N'oublions pas que les règles, les lois de séparation des races aux États-Unis, ça a duré jusque dans les années 50. Hein, donc c'est quand même quelque chose qui est fort. Séparation, interdiction de se mélanger, c'est-à-dire un noir épousant une blanche, c'est pas possible, c'est interdit par la loi. Hein, et lui va appliquer ça pour dénoncer le système, c'est-à-dire c'est une dénonciation politique. Hein, et dans James P. Crow, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un humain qui va entrer dans la catégorie supérieure, il va réussir les examens pour être aussi fort qu'un robot. C'est-à-dire que il prend la situation des noirs aux États-Unis. Il la dénonce et il dit « Mais nous sommes tous des Noirs américains face à des gens qui se croient supérieurs. » Et dedans, il explique à un moment, par exemple, un processus de succession raciale. Il dit que le héros, James P. Crow, habite dans un quartier qui avant était un bon quartier. C'était un quartier de robots. Et puis, un jour, il y a un humain qui est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand l'humain arrive dans un bon quartier de robots ? Eh bien, évidemment, il fait peur au robot, parce que c'est un être inférieur, c'est un être sale, hein, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir toutes les qualités qu'ont les robots. Donc, les robots qui sont installés à côté de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre leur maison. Mais ils vont vendre la maison à qui? Aucun robot ne va vouloir s'installer à côté d'un humain. Donc, c'est d'autres humains qui vont venir. Et petit à petit, le quartier va être gangréné par les humains, il va perdre de sa valeur, il va devenir un quartier sale et paupérisé. Hein? Ce processus, qui est un processus du futur, c'est le processus de succession raciale tel qu'il est appliqué, par l'école de Chicago, et c'est un processus que l'on retrouve aujourd'hui encore dans nos villes, quand il y a des catégories qui sont considérées, des catégories de population qui sont considérées comme inférieures, qui vont dans des quartiers qui sont des bons quartiers, ils font peur, ils font perdre de la valeur au mètre carré, et le quartier commence à se paupériser. Le processus inverse existe ensuite, évidemment, quand on parle de la reconquête urbaine. Hein, la reconquête urbaine, c'est réintroduire dans des quartiers dévalorisés des populations qui vont faire remonter le niveau social et économique. Hein, c'est ce qu'on appelle la boboïsation. Eh bien, ce sont des phénomènes contemporains qui sont dénoncés par la science-fiction. La science-fiction joue un rôle, alors là, de sociologie critique sur les processus en cours dans nos sociétés. C'est pour ça qu'il y a toute une partie de la science-fiction que moi je qualifie de science-fiction critique. Depuis des années et des années, un des grands représentants en France, c'est par exemple Andrevon, hein, qui critique la société capitaliste de consommation, etc. ce sont des auteurs qui réfléchissent sur nous, mais en nous présentant la vision du futur. Et cette vision du futur, elle est censée nous faire peur, et elle est censée nous dire, attention, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ?
J'ai envie de rester sur la ville, parce que c'est très intéressant, et là forcément, le premier que je vois avec l'essai de géofiction, c'est de New York à Coruscant. Alors, que me dit New York ? Déjà, je pense que j'ai envie, je pense que je suis pas le seul à avoir envie de la précision, c'est qu'est-ce qu'un géographe étudie dans New York? Est-ce que New York lui dit quelque chose de l'État, lui dit quelque chose de la civilisation américaine, lui dit quelque chose de ses rapports de force? Et déjà, qu'est-ce que New York apprend aux géographes de la ville et aux géopoliticiens? Et derrière, voilà, de New York à Coruscant, du coup, quel rapport fait ce géographe?
Alors, bon, il y a plusieurs choses. Oui. D'abord, New York, effectivement. Hein? Alors, et pourquoi le rapport avec Coruscant? Je le dis tout de suite, mais après je reviens à New York. Quand George Lucas a décidé d'imaginer ce que pourraient être les paysages urbains de, et je le dis en français, de Coruscant, voilà, mais chacun avec sa correspondance linguistique. Et, il a demandé à Doug Chiang. Doug Chiang, c'est un des concepteurs des cycles des cycles, c'est-à-dire de la deuxième trilogie, ou de la première, ça dépend de quel côté on regarde, donc des épisodes 1, 2, 3, où là, Coruscant apparaît. Coruscant n'apparaissait pas dans 4, 5, 6. Hein. Coruscant apparaît, il a dit, bah, écoute, pour Coruscant, c'est pas compliqué, je veux que tu me prennes Manhattan et tu l'étires à l'infini. Et donc, il dit, bon, bah, allez, on y va. Hein, on y va. Alors, après, c'est pas exactement Manhattan, mais l'idée, c'est ça. C'est Manhattan avec ses gratte-ciels, avec son architecture verticale. Alors, et pourquoi ? Alors, justement, Manhattan, parce que c'est le symbole de la modernité urbaine. Et c'est ça que New York nous apprend, je dirais, et pas seulement aux géographes, hein, je dirais à tout le monde, aux historiens, aux sociologues, le symbole de la modernité avec une nouvelle architecture qui s'impose, hein, et de nouvelles relations sociales liées à cette architecture. C'est d'autant plus important que c'est quelque chose qui, en fait, ne commence pas à New York. La ville moderne, avant New York, c'est Chicago. C'est Chicago. Et quand Fritz Lang va imaginer Metropolis, donc son grand chef-d'œuvre de 1927, c'est suite à un voyage d'abord à Chicago et ensuite à New York. Et son idée, c'est ça. Ben voilà, l'avenir, il est là, en bien ou en mal, mais il est là. Donc, la verticalité, point important, qui va ensuite avoir une répercussion sur de très nombreux auteurs de science-fiction. Comme vous pouvez le voir, quand il y a encore des villes dans les films de science-fiction, ce sont en général des villes verticales. Et des villes verticales, parce que c'est le symbole de la nouvelle architecture. C'est le béton. Avant, on ne pouvait pas le faire. C'est le béton. Et Dos Passos, quand il parle de New York, il dit, ben, New York, ça a été rendu possible parce que il y a du béton. Et le béton permet de construire l'Empire State Building. Hein? En briques, ce serait plus difficile. Et il fait la comparaison avec Babylone. Babylone, c'est une ville de briques. New York, ce sont de nouvelles techniques architecturales et de nouvelles techniques mécaniques. On peut faire autre chose. Hein? Donc ça, c'est un premier point qui me paraît fondamental. Cette verticalité va entraîner des processus sociaux. Hein? Et ces immeubles gigantesques qui vont frapper l'imagination, les Français dans les années 30, quand ils découvrent Chicago et New York, ils sont à la fois fascinés et dégoûtés. Hein? Paul Morand, quand il découvre New York, il y a son récit qui s'appelle New York, qui est de 1930, il dit c'est magnifique, c'est extraordinaire, etc. Duhamel, quand il découvre Chicago et New York, il dit mais c'est horrible, c'est affreux, c'est pas des villes, c'est un cancer urbain. Donc le mot est très fort. Hein? Et cette verticalité, elle va entraîner de nouvelles formes de relations avec l'espace. Et alors là, évidemment, en tant que géographe, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que les relations sociales, elles vont se faire dans les immeubles. Elles vont plus se faire dans la rue. Ce qui était avant le lieu de sociabilité par excellence, la rue, va devenir en fait un espace perdu. C'est dans les couloirs qu'on se rencontre, c'est dans les ascenseurs qu'on se rencontre, qu'on va draguer, qu'on va boire même, etc., etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Et c'est pour ça que Silverberg, alors là aussi, un des plus grands auteurs de science-fiction, a écrit un ouvrage que vous avez peut-être lu qui s'intitule « Les monades urbaines ». Ça vous dit quelque chose, les monades urbaines ? C'est un truc fantastique. On est dans l'avenir. La surface de la planète est consacrée à l'agriculture parce qu'il y a des dizaines de milliards d'habitants à entretenir. Mais on vit dans des gratte-ciels, qui font 3 km de haut, hein, et qui sont baptisés des monades. Ce n'est pas un hasard si les édifices de Coruscant, pour les spécialistes de Star Wars, bon, comme vous voyez, j'aime bien Star Wars, dans Star Wars, les gratte-ciels s'appellent des monades. C'est une référence aux monades urbaines. Mais pourquoi ça s'appelle des monades? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi ça s'appelle une monade? Non! Parce que vous n'avez jamais lu Leibniz, le grand philosophe, hein, donc 17e siècle, qui a écrit un roman qui s'intitule, c'est un traité qui s'intitule La monadologie, hein, dans lequel il dit il n'y a pas en fait d'atomes, lui il c'est pas un atomiste, hein, il dit il y a des monades, la monade suprême c'est Dieu, et ensuite tout ce qui existe n'est qu'un fragment de l'univers, mais tout l'univers est dans tous les fragments. Et il prend l'exemple du jardin, il dit par exemple, un jardin c'est une monade, mais l'arbre qui est dans le jardin c'est aussi une monade qui fait partie de la monade, la branche de l'arbre est une monade, la feuille fait partie, etc. etc. Tout est dans tout, hein, et réciproquement, bien évidemment, en se référant à la monade suprême qui est Dieu. Alors pourquoi Silverberg appelle-t-il ces édifices des monades? Eh bien parce que ces édifices, ces gratte-ciels, sont des univers en soi, clos sur eux-mêmes, dans lequel il y a tout. Hein, c'est un petit peu le rêve de Le Corbusier, hein, avec les cités radieuses. Il y a tout dans la cité radieuse. Hein, on peut vivre, on peut manger, on peut s'éduquer, etc. Et à la limite, on n'a plus besoin d'en sortir. Hein, et ne plus avoir besoin d'en sortir, c'est ce qui va marquer aussi, hein, de manière très forte ce courant de la science-fiction qui dénonce la ville. Oui, on est tous réunis dans la ville, on est des habitants de cette ville, mais on est de moins en moins des citoyens d'une ville. C'est-à-dire on n'a plus de sens politique parce qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Et donc, cette architecture moderne, qui est l'expression aussi d'une puissance géopolitique, c'est quelque chose qui va tuer l'urbain. De plus en plus de villes, mais de moins en moins d'urbanité. Et là, si je me permets juste de dire encore une chose qui me paraît très importante pour comprendre pourquoi, encore une fois, New York, on a déjà vu, c'est parce que c'est une image, c'est devenu un stéréotype de la grande ville, mais c'est aussi le stéréotype, l'image de la puissance mondiale, de la seule puissance mondiale. Et il y a un roman absolument extraordinaire qui est de Camille Flammarion, le grand astronome fin 19e, début 20e siècle, qui s'intitule La fin du monde. C'est un roman des années 1880, je ne me souviens plus exactement la date. Ça se passe au 25e siècle. Le monde risque d'être détruit par une météorite gigantesque qui risque de nous percuter. Et où est le centre du monde? Il le dit lui-même, ce n'est plus dans la vieille Europe, c'est aux États-Unis et c'est à Chicago. C'est-à-dire que dès la fin du 19e siècle, alors que c'est toujours la France et l'Angleterre qui sont les grandes puissances coloniales, hein, de l'époque, lui, il dit, l'avenir n'est plus là. L'avenir, il est ailleurs, il est de l'autre côté. Et effectivement, c'est à Chicago que ça se passe, même si la réunion pour savoir comment on va faire pour résister à la fin du monde se passe quand même à Paris, parce que, évidemment, c'est à Paris que ça se passe. D'ailleurs, la comète risque de tomber sur le monde, et elle tombe effectivement sur le monde, le 14 juillet. Hein, c'est pas un hasard. Hein. Si ça avait été un Américain, elle serait tombée le 4 juillet. Cela aussi, il y a des liens entre la science-fiction et la géopolitique.
Donc j'imagine, là je commence à partager énormément ce goût pour Star Wars, sachant que, alors je vais sortir une hérésie, ça c'est un coup à me faire agresser avant de partir, moi qui préfère la nouvelle trilogie à l'original, parce que je préfère la science-fiction à la fantasy, ça c'est personnel, et ce que j'adore moi justement dans la dernière trilogie, dans la préquelle, et je pensais pas que je pensais pas que Lucas était capable d'écrire ça. C'est justement le rapport qu'il y a entre les lieux de pouvoir, leur organisation spatiale et le parallèle qu'il trace avec justement la difficulté du projet américain politique et la difficulté qui est justement liée à l'espace. C'est-à-dire que tout ce qui se joue et qui est relativement mal compris, qui est évident pour un public américain qui connaît son histoire mais plus difficile à l'extérieur, c'est justement ce qui se joue dans l'intrigue, c'est l'impossibilité pratiquement de maintenir un idéal démocratique à partir du moment où un État ou un empire devient tellement étendu qu'il n'y a plus de communication possible entre les différentes parties. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on... Il y a ce tout, dans la manière dont tu es représenté, à mon sens, et je le comprends maintenant de manière un peu plus profonde, entre la manière dont tu es représenté, effectivement, le Parlement lui-même, au cœur de cette ville, au cœur de cet empire, sachant qu'il y a toujours eu l'hiatus quand on parle des États-Unis. Hein. Les États-Unis se disaient en tant empire, en tant que pays, unité politique de grande taille, par opposition fondamentale, philosophique, politique et tout ce qui en suit aux empires coloniaux de l'ancienne Europe. Est-ce que j'ai bien suivi le concept de la monade new-yorkaise appliquée à Coruscant par rapport à la conception, au rôle de l'espace dans l'organisation politique du monde dont elle est le noyau ?
Alors oui, avec de nombreux autres développements. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est allé à Mexico, mais je pense qu'à peu près tout le monde ici a vu les films de Star Wars. J'ai presque à dire que ceux qui n'ont pas vu lèvent la main et ce sera vraiment assez étonnant. Vous savez que, par exemple, quand Alderaan, la planète de Leia explose à cause de l'étoile noire, la première, et de l'infâme amiral Grand Moff Tarkin, il y a quelqu'un qui ressent ça. Qui est-ce qui le ressent ? Vous en souvenez ? C'est Obi-Wan. Hein ? Il dit « Ah, il y a eu un grand trouble dans la force. Hein, je l'ai senti. Hein, » Et effectivement, c'est, la planète a été pulvérisée. C'est du Leibniz. C'est du Leibniz. Leibniz dit exactement la même chose. Dans sa monadologie, hein, il explique bien que comme toutes les monades sont reliées les unes aux autres, hein, ce qu'on fait à un endroit va être ressenti par contre-coup de l'autre côté de l'univers. Hein. Et il dit, mais on lui a posé la question, on dit, mais comment elles tiennent entre elles ces monades ? Comment elles peuvent tenir ? Hein. Et là, il donne la réponse. Comment elles tiennent entre elles ? Par la force. C'est la force qui tient les monades entre elles. Donc si on ne trouve pas, là encore une fois, une relation directe entre Star Wars et la monadologie de Leibniz, May the Force be with you, là, il me semble que c'est très net. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est l'aspect politique et le projet impérial. D'ailleurs, c'est une république impériale que propose Palpatine. De quoi s'agit-il ? C'est au cœur, encore une fois, des mentalités nord-américaines. Il y a deux aspects qui sont fondamentaux et qui expliquent, je dirais, hormis les caractères personnels de chacun des acteurs, quand je parle des acteurs, c'est des personnages, bien évidemment, Dark Vador, bon, avec, qui est absolument extraordinaire, enfin, peu importe. C'est cette idée que tout va être régi à partir de deux choses. Le problème de l'esclavage et le problème de la sécession. Parce que tout est dominé par cette crainte de la sécession. Et c'est la guerre de sécession qui marque toujours les esprits aux États-Unis. Le fait qu'il y ait des gens qui veulent faire sécession, c'est pas possible. C'est pas possible. Et par ailleurs, le problème de l'esclavage. Chewbacca, pourquoi est-il ami de Han Solo ? Parce que Han Solo l'a libéré de l'esclavage. Et donc, il a maintenant une dette de vie. Et quelle est la position d'Anakin, le jeune Anakin, sur Tatooine ? C'est un esclave. C'est un esclave. Mais on renverse les valeurs. C'est un esclave blond. C'est pas un esclave noir. Donc là encore, cette dimension essentielle, deux poids dans l'histoire américaine, deux poids dans les mentalités collectives américaines, la sécession et l'esclavage. Et quand la dernière dimension, qui va être la dimension entre comment on passe de Coruscant, la ville-planète, à Coruscant, capitale de la République, puis de l'Empire galactique, eh bien, encore une fois, c'est la dimension géopolitique. Jusqu'où a-t-on le droit d'aller pour imposer un ordre supposé juste à l'ensemble de la galaxie? Tout comme la question centrale pour les États-Unis, c'est jusqu'où peut-on aller pour imposer un ordre juste, c'est-à-dire un ordre nord-américain, à l'ensemble de la planète. Et je ne sais pas si vous vous souvenez cette scène absolument effrayante dans Star Wars, quand Palpatine prend le pouvoir devant le Sénat. Il dit je vais prendre les pleins pouvoirs pour régler le problème. Tous les sénateurs lui donnent les pleins pouvoirs en applaudissant. Et que dit Padmé à ce moment-là? C'est ainsi que meurt la démocratie, sous un déluge d'applaudissements. Et c'est le Patriot Act. Le Patriot Act, dont on subit à l'heure actuelle toujours les conséquences, puisque ça a donné des droits à la NSA d'aller espionner tout le monde, n'importe quand, n'importe comment, sans même en référer à la justice. Donc cette idée d'empire, on la retrouve, et elle va s'appliquer sur le plan des territoires, puisque je suis un géographe urbain, elle s'applique comment? Avec un certain nombre de lieux qui vont incarner le pouvoir. Ça va être le Sénat galactique. Vous l'avez tous vu, cette sorte d'énorme champignon qui domine Coruscant. Ça va être le temple Jedi, qui est là pour maintenir l'ordre aussi. Ça va être ensuite le palais impérial. Mais on a une série de lieux qui sont des lieux d'expression du pouvoir, parce que le territoire, même si on est dans un ensemble qui est en grande partie déterritorialisé, délocalisé, il a du sens et il faut être à Coruscant pour pouvoir se faire entendre, tout comme il faut être à Washington pour se faire entendre. Tous les lobbies sont à Washington, et bien tous les lobbies de la galaxie sont à Coruscant. Encore une fois, c'est une planète qui va concentrer tous les pouvoirs, et c'est pour ça que c'est une planète qui va devenir une cible pour les ennemis, d'abord de la République et ensuite de l'Empire.
Puisqu'on en est arrivé logiquement à la révélation de la vraie nature de l'empereur et à la fin de la démocratie, bah j'aimerais maintenant qu'on justement parle plus spécifiquement donc des géofictions de la fin du monde, avec deux questions qui viennent naturellement. C'est d'une part, y a-t-il une raison spécifique ou y a-t-il une multiplication des récits de la fin du monde, et de quel type à notre période, depuis quand est-ce qu'on est toujours sous une veine millénariste assez claire, assez amusant, parce que c'est quand même une forme d'illusion ou de récit autoréalisant de la fin du siècle, mais qui a l'air de durer de plusieurs manières, et quelles sont actuellement donc les géofictions de l'apocalypse les plus courantes, principales, celles éventuellement auxquelles nous réagissons sans nous rendre compte que nous ne savons pas que nous parlons de la prose, et qu'a priori ce sont bien des géofictions de l'apocalypse qui forment notre paysage.
Alors, c'est à nouveau un autre problème. Oui, oui. Il y a deux questions. Donc, ce bouquin, donc, qui s'intitule « Le syndrome de Babylone », c'est pas pour rien qu'il s'appelle Babylone. Parce que l'Apocalypse, c'est d'abord l'Apocalypse de Saint-Jean, et c'est pas la fin du monde. Rappelons-le, l'Apocalypse, c'est la révélation. On révèle, c'est la vérité, ça y est, ça arrive. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de Babylone. Babylone, c'est la dernière ville. C'est celle qui va être détruite. Qui va être détruite parce qu'elle incarne le mal. Et l'incarnation du mal, c'est important, parce que, Saint Jean le dit, elle est tombée Babylone la Grande, etc., etc. La ville, c'est le mal, et ça fait partie, je dirais, d'un vieux fond que nous avons tous, qui est le fond judéo-chrétien, qui fait partie de notre culture en général assez partagée, même si les gens n'ont pas lu la Bible. Babylone, ils ont entendu parler. Babel, la tour de Babel, on a entendu parler. C'est un fond qui existe et qui va être réutilisé de manière permanente par la science-fiction. Quand il s'agit de dénoncer les villes, les villes qui sont, comme je dis, par essence mauvaises, parce que c'est là qu'il va y avoir toutes les dépravations, c'est la violence, ce sont les injustices. La Bible le dit d'ailleurs, même Jérusalem est condamnée par la Bible, la Jérusalem terrestre. Évidemment, la Jérusalem céleste va changer tout ça, mais la terrestre est condamnée par la Bible. C'est donc un monde d'injustice, un monde qu'il faut effectivement balayer, tout comme on a balayé Sodome et Gomorre. Et quand on qualifie les villes modernes, on les qualifie de Babylone. ce sont toutes des Babylones. Paris, c'est la nouvelle Babylone. Hein. C'est pas parce qu'il y a une station de métro Sèvres-Babylone, ça n'a aucun rapport, c'est une autre histoire, mais c'est la nouvelle Babylone. Dans Soleil Vert, que je pense que tout le monde a vu le film Soleil Vert, ou au moins entendu parler, qui est tiré d'un roman de Harry Harrison qui s'intitule Make Room, Make Room. Le surnom de New York, c'est quoi? C'est Babylon on Hudson. Hein, c'est Babylon sur l'Hudson. Donc ça reste, ça fait partie. Alors en année encore, ce sont les Loki encore une fois. Hein, je dirais ces lieux qui marquent la mémoire parce qu'ils font partie d'une culture partagée. Hein. Donc ça, c'est un vieux fond et on essaye régulièrement de se débarrasser de la ville. Hein, Rousseau entre autres, mais je ne vais pas revenir à Rousseau. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que régulièrement, on parle de la fin du monde ou plutôt de la fin des villes, parce qu'en général, c'est la fin des villes. Alors, la fin des villes, c'est parce qu'elles sont plus symboliques, parce qu'elles sont symptomatiques, et les premières villes à être détruites, ça va être les villes les plus importantes à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Bien évidemment, Babylone, qui est une sorte de métaphore, hein, mais la première ville réellement détruite dans des récits de science-fiction, c'est Paris, ou de proto-science-fiction. De proto-science-fiction, Paris, dès le milieu du 19e siècle, est détruite parce que c'est déjà la ville lumière. Hein. Il va y avoir ensuite des villes qui vont prendre le relais. Ça va être New York. C'est le fameux passage de relais vu par Camille Flammarion. Paris, c'est très intéressant, mais il vaut mieux frapper à la tête. La tête, ça va être New York. Et ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est, je dirais, un changement géostratégique des lieux frappés par la fin du monde. De plus en plus maintenant, à la place de New York, ça va être Los Angeles ou San Francisco, qui vont être les nouvelles Babylones. Hein. Et le cinéma asiatique étant, en augmentation, le Japon va aussi se mettre en scène, Séoul va apparaître aussi comme une des villes privilégiées pour la fin du monde. Donc il y a une géopolitique de l'apocalypse qui correspond à une évolution de la géopolitique mondiale. Ça, c'est un point qui me paraît important à noter. Et par ailleurs, pour en revenir, à cette dimension de la ville et de la fin du monde, moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Si vous avez un tremblement de terre de 8,5 sur l'échelle de Richter dans le Sahara, tout le monde s'en fout. Si ça arrive à San Francisco ou à Los Angeles, ben là c'est pas pareil, parce que un, il y a des densités de population qui sont plus fortes. Et la dimension symbolique est tout aussi forte aussi. Et c'est pour ça que la ville, c'est pas seulement une concentration de population, c'est pas seulement une concentration de pouvoir, c'est aussi une concentration symbolique. Hein ? La ville est symbole de quelque chose, et à l'intérieur de la ville, il va y avoir des symboles qui vont être privilégiés, parce que, de manière métonymique, ils vont représenter la ville. Par exemple, si vous voulez détruire Paris, c'est pas la peine de tout détruire. Vous vous contentez de montrer la Tour Eiffel par terre. Ça suffit. On a compris. C'est un symbole universel qui va être reconnu par tout le monde. Autre symbole universel, ça va être la Statue de la Liberté. Vous voulez détruire New York, mais vous n'avez pas assez de fric pour faire tous les décors. Vous vous contentez de la Statue de la Liberté. Et c'est cette superbe image de la fin de la planète des singes. Une fois qu'on voit, je ne veux pas spoiler, si vous ne voulez pas connaître la fin de la planète des singes, n'écoutez pas. Quand Charlton Heston arrive sur la plage et qu'il voit effectivement la statue de la liberté qui est engloutie jusqu'au torse dans le sable, il comprend. Il comprend. Hein. Les salauds, ils l'ont fait. Ils l'ont fait péter leur putain de bombe. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Charlton Heston. Voilà. Mais non, mais c'est Mythique pas les fous. Mais c'est pas les fous qui dit en anglais. Non. La version, la meilleure traduction serait les salauds. Mais bon, je vais pas entrer là-dedans. Mais c'est vraiment ça. Il y a donc des villes qui sont symboliques.
Et à l'intérieur de ces villes symboliques, il y a des lieux symboliques qui sont des messages forts. Je dirais, si vous voulez, après, il y en a d'autres qui sont moins importants, mais les films où il y a, où on met en scène, par exemple, Londres, hein, quel est l'édifice de Londres qui va être le plus représenté et le plus détruit? Hein, c'est pas la Tour de Londres, parce que la Tour de Londres n'est pas assez caractéristique. Tu vois, on la montre, on le reconnaît pas, on voit un gros machin, un gros château, c'est ça. Non. C'est Tower Bridge. C'est Tower Bridge. Là, il est reconnaissable, et je peux vous assurer que quand il y a une saleté qui tombe sur Londres, en priorité, ça tombe sur Tower Bridge. Parce que c'est reconnaissable.
Et Big Ben.
Et Big Ben, évidemment, Big Ben. C'est les deux gros symboles. Ouais. De la même manière que pour Paris, j'ai parlé de la Tour Eiffel, mais il y a un autre monument qui est très aimé par les destructeurs de villes, c'est l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, il est superbe, il est très très bien pour les destructions. C'est dans Armageddon. Grâce à Bruce Willis, on n'est pas tous détruits, mais il y a quand même de gros bouts de météorites qui tombent un petit peu partout sur la planète. Et comme par hasard, il y a un météorite qui tombe, un fragment qui tombe sur Paris. Hein. Et il y a cette superbe image où l'on voit le choc, hein, de la météorite sur Paris. C'est vu depuis Notre-Dame. Et on voit même des gargouilles en premier plan. Et on voit cette vague immense qui détruit tout et qui emporte la Tour Eiffel comme un fétu. Hein. Et ensuite, à la fin du film, on voit Paris après la chute. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est un plan, hein, en plongée. C'est le plan sur la place de l'Étoile, avec l'Arc de Triomphe, qui est toujours debout, un peu abîmé, il est un peu écorné, et le trou de la météorite qui est à côté. Hein. C'est pas du tout crédible. J'ai posé la question d'ailleurs à Roland Lehoux, qui est astrophysicien, en lui disant, Roland, s'il y a une météorite qui est capable de faire les dégâts qu'on voit dans le premier plan, qu'est-ce que tu crois qu'il resterait du quartier? Évidemment, il resterait rien sur des dizaines de kilomètres carrés. Mais seulement s'il ne reste plus rien, on peut pas reconnaître que c'est Paris. Donc, pour que tout le monde reconnaisse Paris, c'est pas compliqué. On met l'Arc de Triomphe. Donc, des symboles comme ça, des lieux symboliques qui permettent aux gens de reconnaître sans effort de quoi il s'agit.
D'ailleurs, Armageddon, c'est certainement un des meilleurs exemples. Moi, je me souviens avoir travaillé avec mes étudiants à l'époque, qui étaient lycéens à ce moment-là, sur justement Armageddon avant le 11 septembre, parce qu'en fait, il y a un truc hyper frappant, c'est que dans la scène de destruction de New York, alors on a tous les lieux qu'on détruit à New York, on est d'accord. J'ajouterais le Chrysler Building et Grand Central. Ce sont vraiment les deux endroits, mais surtout, il y avait déjà, le World Trade Center avait été touché, et on avait un plan général avec un léger filtre sympa pour la fin du jour, mais on avait le plumeau de fumée qui sortait directement. On avait la même image, voilà exactement que pour le 11 septembre.
C'est-à-dire que, en fait, Oussama Ben Laden n'a rien inventé. Il n'a fait que regarder des films de science-fiction en disant « Tiens, je vais faire pareil ». Il a réussi. Là, le décor, il ne s'est pas planté. Excuse-moi, je vois qu'il reste 10 minutes. S'il y a peut-être des questions, je ne sais pas.
C'est exactement ce que je pensais. Entre... soit je laisse continuer Alain Musset qui peut sans problème nous passionner encore 10 minutes. Je dis, vous avez peut-être un moment des questions
ou des commentaires.
Ou des commentaires.
Vous êtes un peu court de câble. Vous entendez parler beaucoup de tours. Pardon, c'est pour ça que vous parliez fort tout à l'heure. Oui. Vous parliez beaucoup des tours et ça me faisait penser que j'avais entendu et puis vu quelque part dans un bouquin de Serge Le Mène qui disait que les avènements des tours dans les villes étaient le début de la décadence.
Non, alors, le début de la décadence de quoi? Non, c'est... Voilà, non, c'est... La critique qui a été faite, et c'est encore une fois pas par moi, hein, sur les tours, c'est les tours, les gratte-ciel, on va dire. Hein, les gratte-ciel, ça détruit les espaces publics. Et une ville sans espace public n'est plus une ville, puisque c'est dans l'espace public qu'on peut se côtoyer, qu'on peut partager, qu'on peut échanger. Hein, et ça, c'est très important, c'est la principale critique. Pourquoi? Parce que dans les gratte-ciel, on peut toujours échanger. C'est comme je dis, dans les ascenseurs, on peut draguer. Le nombre de scènes de drague qu'il y a dans les films américains dans les ascenseurs, je ne vais pas faire le recensement, mais c'est énorme. Hein. En plus, quand il faut monter 30 ou 40 étages, il y a le temps. Hein. Si c'est 3 étages, c'est vraiment de la drague express. Mais le reproche, c'est qu'on n'a plus d'espace public, on a des parties communes. Et les parties communes, ce n'est pas du tout la même chose.
C'est pas un espace public. Et moi, je donne souvent l'exemple de non-ville. Hein, la ville de Celebration, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la ville de Disney en Floride. Disney a construit une ville qui s'appelle Celebration, à côté d'Orlando. Et c'est ce qu'on appelle, parce qu'ils ont des statuts particuliers aux États-Unis, c'est une unincorporated area. C'est-à-dire, c'est un espace non incorporé à un établissement urbain, à une institution urbaine, et ça dépend en fait directement du comté. Et c'est très intéressant, Celebration, il y a d'autres villes comme ça, mais c'est la plus symptomatique, parce que ça ressemble à une ville, il y a des habitants, il y a à peu près 15 000 personnes, il y a des rues, il y a des maisons, il y a des activités, il y a même un town hall, une mairie, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je parlais de qu'est-ce que la réalité, c'est une fausse ville. C'est une fausse ville parce qu'en fait, par exemple, il n'y a pas de maire. C'est une société, c'est une entreprise qui gère la ville. Il n'y a pas de gens qui sont élus avec un vote. C'est une société qui s'en occupe. Hein. Et les espaces publics, on croit qu'il y a des espaces publics. Eh bien, c'est faux. Parce que moi, j'ai étudié la charte de Celebration. Et sur la charte de Celebration, on ne parle pas de l'entretien des espaces publics. On parle de l'entretien des common areas, c'est-à-dire des parties communes. C'est-à-dire que tous les habitants sont propriétaires d'un bout de la ville et la rue, c'est une partie commune, tout comme le couloir d'un immeuble, c'est une partie commune de la copropriété. Et là, évidemment, ça nous questionne sur qu'est-ce qu'une ville, effectivement? Est-ce qu'une ville, c'est uniquement un endroit où on habite? Ou c'est un endroit où on interagit et où il y a une identité politique, hein? Et c'est la question qui est posée dans Robocop. Là aussi, je pense que vous avez tous vu Robocop. Les deux premiers qui sont... Le troisième, il est nul. Mais les deux premiers sont vraiment excellents. Quand c'est fait par Verhoeven, ça ne peut pas être franchement mauvais. Hein? Bon. Mais la question de Robocop, c'est quoi? Vous vous en souvenez? Bon, c'est pas uniquement le robot avec le cerveau du flic qui défouraille à tout va. Le problème, c'est sur qu'est-ce qu'une ville? Parce que qu'est-ce qui se passe? On est à Détroit. Détroit est en pleine décadence. Alors là, on est réellement dans la décadence. Et il y a une entreprise qui veut s'emparer de Détroit pour en faire une ville fermée, sécurisée, tranquille, avec de bons habitants. Les bons habitants, c'est des WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Donc on élimine les noirs, on élimine les pauvres et on va. Et c'est pour ça qu'on va d'abord faire pourrir la ville exprès. Je veux dire, c'est une stratégie. Comme on a des stratégies à l'heure actuelle, quand on fait pourrir des quartiers complets pour dire après, il faut requalifier, il faut reconquérir et on va favoriser la mixité. Favoriser la mixité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est virer les pauvres et mettre des classes moyennes. C'est ça la stratégie. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, une ville que je connais bien, qui est Marseille, c'est le plan d'Euroméditerranée. C'est ça. C'est du Robocop. On a fait pourrir les vieux quartiers, et une fois qu'ils sont pourris, on dit non, on ne peut pas laisser comme ça, on va réaménager, mais on vire. Et l'intérêt de Robocop, c'est qu'à un moment, quand cette grande entreprise transnationale est prête à s'emparer de la ville, il y a le maire de Détroit, qui par ailleurs dans le film est un type hyper corrompu, mais enfin bon, peu importe, qui dit quel est votre projet? Et puis dans le projet, il n'y a pas de mairie. Il dit comment ça, il n'y a pas de mairie? Non, puisque de toute façon, c'est notre société qui va gérer la ville. Et elle sera mieux gérée parce que c'est une société privée, justement. Nous, on ne va pas perdre du fric, on ne va pas faire de la gabegie. Et il dit, mais il n'y aura même pas de représentation, il n'y aura pas de maire, etc. Mais il dit, mais c'est la mort de la démocratie. Et le président de la compagnie dit, au contraire, c'est l'apothéose de la démocratie. Pourquoi? Parce que tous les habitants seront propriétaires d'une partie de leur ville, ils seront donc, selon leur capacité économique, ils auront des droits de vote pour... parce que ce sera relié avec les actions qu'ils auront de leur ville, et donc ce sont les assemblées d'actionnaires qui vont organiser et qui vont planifier le développement de la ville. Il dit, ça, c'est la véritable démocratie, parce que chacun sera à sa place, et chacun pourra agir en fonction de ses capacités réelles. Capacités, non pas intellectuelles ni morales, mais capacités économiques, et la dénonciation
de Verhoeven dans Robocop, c'est est-ce que vous voulez que vos villes deviennent ça ? C'est-à-dire des espaces complètement privatisés où les habitants ne sont que des habitants, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus des citoyens. Or, la ville, avant tout, ce sont des citoyens.
Quelqu'un d'autre a-t-il une autre question ? Ce serait la dernière. Ma foi, en fait, pour être tout à fait honnête, il est l'heure. Moi, un grand merci à Alain Musset pour cet exposé merci. Absolument passionnant. Merci beaucoup. J'ai trouvé le livre à l'étage en dessous, en bas de l'escalator, juste à droite. J'ai pas encore fini, hein, pour être honnête.
Mais bon, il est gros, hein.
Non, il est pas gros. Non. Je suis un fan de Frank Herbert, donc c'est pas ah oui, ça. Non, c'est une nouvelle. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.
Merci.